Les combats ont commencé le 23 mai 2017, vers 3h de l'après-midi. Certains habitants sont restés chez eux. Ils pensaient que ça n'allait pas durer longtemps, juste quelques jours, et que les combats resteraient circonscrits à certains quartiers. Mais vers 22h, le président Duterte a décrété la loi martiale et les combats se sont intensifiés.
RFI, grand reportage.
Il y a 2 ans, au terme d'une longue bataille contre des islamistes qui avaient prêté allégeance au groupe État islamique, l'armée des Philippines libérait Marawi, la plus grande ville musulmane de l'archipel, la majorité catholique. Les groupes djihadistes avaient choisi cette ville pour y implanter leur futur califat en Asie. Aujourd'hui, une grande partie de la ville est en ruine et près de 70 000 personnes vivent toujours dans des abris de fortune. Marawi, une crise oubliée. C'est un grand reportage de Yelena Tomic.
Jasper Landerol travaille pour Action contre la faim à Mindanao.
Les groupes armés étaient divisés en petites unités qui se déplaçaient de quartier en quartier. Et dès le lendemain de l'attaque, des habitants ont posté sur les réseaux sociaux des photos et des vidéos des djihadistes agitant le drapeau noir de Daesh. J'avais tout de suite compris qu'il se passait quelque chose de très grave à Marawi. Je ne m'y attendais pas en fait. Personne ne s'y attendait. Aussi loin que je me souvienne, et je suis originaire de cette île, Mindanao a toujours connu des conflits, mais jamais comme celui-ci qui a duré 5 mois. Il y a bien eu le siège de Zamboanga en 2013, tout au sud-ouest de l'île, mais l'insurrection était limitée à 2 ou 3 quartiers et l'armée avait réussi à reprendre le contrôle en quelques semaines.
Sur la route qui nous mène à Marawi, une dizaine de checkpoints, parfois vides, parfois avec 1 ou 2 militaires qui montent la garde. La loi martiale est toujours en vigueur ici à Mindanao, jusqu'au 31 décembre, si elle n'est pas de nouveau prolongée. Le niveau de sécurité dans la province de Lanao du Sud est à son niveau maximum. Le couvre-feu reste appliqué. Les déplacements dans la zone doivent faire l'objet d'une autorisation et se font sous escorte de l'armée. Après quelques kilomètres de route à travers des champs de cocotiers et de bananiers, nous entrons dans la ville. Les quartiers périphériques ont été épargnés par la guerre. La vie ici semble normale. Les petits commerces sont ouverts. Les résidents de ces quartiers ont pu rentrer chez eux dès le 17 octobre, date à laquelle le président Duterte a annoncé la libération de la ville par l'armée. Mais quelques centaines de mètres plus loin, la scène change radicalement. Nous voici dans le secteur surnommé Ground Zero, une zone qui couvre 24 barangays, 250 hectares de superficie, soit un tiers de l'agglomération. Des quartiers entiers anéantis, un champ de ruines. Des murs éventrés par des obus. Quelques-uns portent l'inscription ISIS, l'acronyme anglais de l'organisation État islamique. Les façades sont criblées d'impacts de balles, les toits sont effondrés. Aucun immeuble ni mosquée n'ont été épargnés. C'est une ville fantôme où la nature a repris ses droits. On a peine à imaginer à quoi ressemblait Marawi avant les combats.
We're still inside the most affected area.
Nous sommes toujours dans la zone la plus touchée. Et comme vous pouvez le voir, certains immeubles ont été complètement démolis. Vous voyez ici, c'était l'hôpital pédiatrique de la ville. C'était un quartier vivant avec plein de commerces, des cliniques, juste derrière la grande mosquée là-bas. 24 districts ont été rasés.
Sur plusieurs façades éventrées dans Ground Zero, on peut lire « propriété privée ». En dessous, des numéros de cadastre et les noms de propriétaires qui refusent que leur maison soit démolie. Depuis la fin du siège, il y a 2 ans, l'armée a entrepris les opérations de nettoyage et de déminage. Des obus de mortier, des grenades ou des engins explosifs improvisés qui n'ont pas explosé se comptent encore par dizaines. Le jeune militaire qui nous escorte n'est pas très bavard. Cela fait 1 an qu'il est déployé à Marawi. Il nous conseille de ne pas quitter la chaussée des blayés et sûrs et de ne pas nous aventurer entre les immeubles éventrés.
C'est une zone très dangereuse ici, il faut faire attention.
Vous pensez que la loi martiale va être suspendue à la fin de l'année ?
Non, je ne pense pas. La loi martiale ne sera pas levée tant que l'ordre ne sera pas totalement rétabli à Marawi et que l'armée n'aura pas terminé ses opérations de déminage. Il y a encore beaucoup de bombes ici. L'armée poursuit ses opérations de balayage aérien à l'aide de drones pour repérer les bombes qui n'ont pas explosé.
Et vous avez une idée de combien de temps cela peut prendre ? 5 mois ? 1 an ?
Non, parce que je ne suis pas sûr.
Non, je ne sais pas. Ce sont des procédés très complexes. Certaines bombes sont enfouies profondément dans le sol. Ça complique les opérations de déminage.
Bombs is critical.
We can go there. There's no bombs unexploded there. Come with me.
La présence de nombreux obus et engins explosifs laissés par les djihadistes, c'est l'un des principaux arguments avancés par les autorités pour justifier le retard de la reconstruction. Jasper nous explique le contexte inédit de guérilla urbaine auquel a dû faire face l'armée. Les adversaires des militaires, des islamistes philippins issus des groupes Maoté et Abu Sayyaf, rejoints par quelques dizaines d'étrangers redéployés du front syrien, notamment des combattants indonésiens et malaisiens. Des ennemis surarmés, environ 700 selon les estimations, extrêmement bien préparés avec d'impressionnants stocks de munitions qui leur ont permis de tenir pendant 152 jours. Jasper Landerol.
Ils étaient répartis en petites cellules dans différents points de la ville. Les combats se déplaçaient d'un quartier à l'autre. Un militaire m'a dit que les combattants islamistes changeaient à chaque fois de position et qu'il fallait les déloger maison par maison. Ces derniers finissaient soit capturés, soit tués.
Les nombreuses mosquées de la ville portent aussi les stigmates d'une violence inouïe. Toutes sont criblées d'impacts de balles et d'obus. Certaines n'ont plus de coupole ni de minarets écroulés au sol.
L'aviation philippine n'a jamais bombardé les mosquées. Il y a eu des attaques, oui, mais pas de bombardements aériens, car c'est interdit par la Convention de Genève qui proscrit le bombardement des lieux de culte. Ça a été respecté d'une certaine manière par les forces armées des Philippines.
Nous quittons Ground Zero, cette partie de Marawi qui a été le théâtre d'une guerre sanglante. Des civils y ont été décapités par les djihadistes, d'autres tués sans sommation ou utilisés comme boucliers humains. La terreur a duré 5 longs mois. Les rescapés ont tout perdu dans cette guerre. Depuis 2 ans, ceux qui n'ont pas eu la chance d'être hébergés chez des proches vivent dans des abris de fortune ou des camps provisoires dits de transition. Sans maison, sans travail, sans moyens financiers pour survivre, ils dépendent entièrement des aides de l'État, mais surtout des institutions internationales, dont ECHO, le programme d'aide humanitaire de la Commission européenne. Grâce à ces fonds, plusieurs ONG comme CARE, Oxfam ou Action contre la faim viennent en aide aux plus démunis et aux plus vulnérables. C'est le cas des déplacés du camp transitoire de Bonganga, situé sur un terrain de 15 hectares tout proche du lac de Lanao. Ici vivent plus de 550 familles. Plus de 200 d'entre elles bénéficient de l'aide de la Commission européenne qui finance les biens de première nécessité.
Hello? What's your name?
Chez les Maranao, l'ethnie majoritaire de la province de Lanao du Sud, dont Marawi est la capitale, les femmes sont nos principales interlocutrices. C'est elles qui s'expriment lorsque les sujets touchent au logement, à la famille ou aux questions sociales.
On nous a autorisés à retourner à Marawi 2 fois. Quand j'ai vu ce qu'il restait de ma maison, je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer.
Sapida Mangarobang a 38 ans et 5 filles. Elle a tout perdu dans le siège de Marawi. Elle est envahie par un sentiment de détresse.
C'est une ruine. Je n'ai rien pu récupérer. Bien sûr que j'aimerais revenir. Marawi, c'est chez moi. Mais j'ai complètement perdu espoir de pouvoir y retourner un jour. Avant, j'étais propriétaire, je tenais une épicerie, j'avais un travail et je pouvais gagner assez d'argent pour subvenir aux besoins de ma famille. Aujourd'hui, il n'y a plus rien.
Amina a 41 ans. Elle aussi a pu retourner à 2 reprises à Marawi pour constater les dégâts. Même émotion que Sapida, même sentiment de désespoir. Elle aussi a espéré pouvoir récupérer quelques affaires sous les décombres, en vain. Dans le site provisoire de Boganga, elle vit désormais dans une maisonnette en dur, d'une 30aine de mètres carrés. Elle y loge avec son mari et ses 5 enfants et essaye de reprendre une vie normale.
On se reconstruit comme on peut, doucement. Mais c'est très différent de notre vie d'avant. On a reçu une première aide de l'Office national du logement. Ils nous ont construit un réservoir pour récupérer l'eau de pluie et ont installé une pompe à eau. Mais la pompe n'est pas assez puissante pour approvisionner tout le site. L'accès à l'eau, c'est l'un de nos plus gros problèmes dans ce camp.
Noraïssa Ousmane Arumpak a 44 ans. Elle se souvient très bien du début de la prise de la ville par les djihadistes. Elle était en train de vendre du poulet frit sur son stand devant son épicerie quand les premiers tirs ont retenti. Trois voisins chrétiens l'ont aidée à évacuer la ville. Les routes étaient embouteillées et tout le monde cherchait à se sauver. Elle a d'abord trouvé refuge dans une madrassa, une école coranique. Avec son mari et ses 9 enfants, ils ont vécu par la suite sous une tente dans le camp d'évacuation de Pantar, à une quinzaine de kilomètres au nord de Marawi, avant de rejoindre Bonganga.
Le contrat prévoit que nous restions dans cet hébergement entre 3 et 5 ans. On espère que d'ici là, le gouvernement annoncera la date du début de la reconstruction de Marawi. Ce qui m'inquiète, c'est que je suis propriétaire de ma maison, mais pas des terres. Et c'est un problème, car je ne sais pas si je serai autorisée à retourner chez moi. J'ai tout perdu, ma maison, tous mes biens, y compris notre épicerie et notre magasin de location de tricycles.
Dans l'allée, une femme coiffée d'un foulard orange s'approche. Akissa Lansao est institutrice. Elle veut nous faire part des problèmes que rencontrent les déplacés dans ce camp.
Notre situation ici à Bonganga est compliquée. Nous manquons d'aide, de sécurité, de transport aussi. Le supermarché est très éloigné du camp. Notre communauté a besoin de beaucoup d'aide. Pour l'eau aussi. Certains déplacés reçoivent une assistance, d'autres pas du tout. J'espère que nous serons entendus. J'ai vécu dans 4 différents endroits avant d'obtenir un abri temporaire. Dieu merci. Mais aujourd'hui, nous avons besoin d'un travail. Hommes et femmes avons besoin d'avoir un emploi. J'espère qu'on pourra nous aider à nous faire entendre par le gouvernement et à obtenir de l'aide pour les habitants de Bonganga.
Noraïssa, Amina, Sapida veulent garder espoir. Leur plus grande crainte aujourd'hui, que le siège de Marawi ne se répète de nouveau, que Daesh revienne dans leur ville. Les rumeurs circulent dans le camp, les gens en parlent et ça fait peur. Quand on leur demande ce qu'elles aimeraient le plus, la réponse fuse, unanime, retourner chez elles. En prononçant le nom de Marawi, les sourires reviennent. Marawi, c'est leur ville, là où elles sont nées, là où elles ont grandi, là où elles avaient une vie normale. 70 000 personnes sont actuellement logées dans des abris provisoires disséminés dans un large périmètre autour de Marawi. À Sarimanok, un camp transitoire, les déplacés vivent dans un état précaire. Ici, pas d'infrastructure, pas de système d'évacuation des eaux, juste de la terre et de la boue. Quand il pleut, les tentes sont submergées. Pas de toilettes non plus, ni d'eau potable. Sarimanok devait fermer en juillet dernier. 5 mois plus tard, 1 millier de personnes vit toujours dans ce camp insalubre. Guy Helse est le directeur d'Action contre la faim aux Philippines.
Sarimanok est l'un des derniers camps de transition encore ouverts. Tous les autres ont fermé et les gens ont pu être relogés dans des abris semi-permanents. L'un de nos plus grands défis ici, c'est l'accès à l'eau, car il n'y a pas de source d'eau sur le site. La seule eau à disposition des déplacés, c'est celle que nous acheminons chaque jour par camion et qui est stockée dans les réservoirs d'eau que vous voyez là. C'est censé couvrir tous les besoins de la population, pour l'hygiène, la cuisson et la consommation. Quand l'eau arrive, une longue file se forme. Tous attendent avec leur jerrycan et en à peine une demi-heure, une heure, le tank de 10 000 litres est vide.
Pour les déplacés à Sarimanok, la vie est très difficile.
Les gens ici font ce qu'ils peuvent pour gagner leur vie. Vous avez vu, il y a beaucoup de tricycles à l'entrée du camp. C'est un moyen de gagner un peu d'argent. Certains ont des petites échoppes, d'autres partent travailler dans d'autres régions, puis reviennent. Mais très peu ont les moyens de couvrir leurs dépenses de base. Notre organisation Action contre la faim leur fournit l'alimentation, en particulier aux familles qui ont des enfants en bas âge. Le gouvernement fournit également de l'aide en nourriture, mais celle-ci est loin d'être suffisante pour couvrir les besoins des 120 familles qui vivent ici.
Une situation très mal vécue par la population qui se sent abandonnée, comme Ali Anoni Magarang. Elle était enceinte de 6 mois lorsqu'elle a fui Marawi avec sa petite fille. Elle a donné naissance à son fils dans un camp d'évacuation à Iligan City, où elle est restée 1 an.
Ça fait presque 1 an et demi qu'on vit dans cet abri de fortune, avec mes 2 enfants. Chaque nuit, on a peur des chiens errants, des rats qui rentrent sous la tente à cause de la pluie. Ensuite, on ne reçoit pas toujours suffisamment de nourriture. C'est vraiment très difficile pour moi, qui suis seule avec mes 2 enfants. Parfois, j'essaie d'aller en ville pour trouver du travail, pour acheter des couches à mon petit de 2 ans.
La voix se noue. Alia s'effondre en larmes.
C'est très dur d'élever des enfants seuls. Je suis enseignante, j'ai essayé de travailler, mais le salaire est très bas. 4 500 pesos, environ 80 euros. Une fois, j'ai retrouvé mes enfants avec des cicatrices, car je les avais laissés tout seuls, sans trouver personne pour les garder. Pour ça, il faut que je paie, mais mon salaire est insuffisant. Du coup, j'ai décidé de rester avec eux, pour les protéger.
Alia ne croit plus aux promesses de l'administration municipale qui annonce chaque mois un transfert imminent vers un autre site plus pérenne. Une attente interminable, des promesses de dons non tenues. Alia veut des actions concrètes.
En tant que propriétaire, le gouvernement devrait nous donner de l'argent pour acheter le matériel et reconstruire nous-mêmes nos maisons. Parce que là, ça fait 2 ans qu'on attend et que rien ne se passe. Nous avons beaucoup de gens doués parmi nous, des charpentiers qui sont prêts à travailler si on avait de l'argent pour les payer. Il faut agir. Si le gouvernement débloquait l'argent, on pourrait reconstruire nos maisons en 2 ou 3 mois. Ni moi, mère célibataire, ni aucun être humain ici n'est en sécurité. La vie, c'est un combat de tous les jours.
Changement de décor, nous voici dans le camp de Matungao, dans la province de Lanao du Nord. Ici, la vie des déplacés est mieux organisée, avec des stages d'électricité pour les hommes et de cuisine ou de couture pour les femmes. Ici, pas de tente, mais des hébergements en dur. Kusaima Maranda est ce qu'on appelle un leader communautaire. Cette jeune femme de 23 ans assure le lien entre les bénéficiaires et les organisations humanitaires. Pour elle, l'un des plus grands problèmes rencontrés dans ce camp touche les enfants.
Honnêtement, ce qui a été le plus difficile, c'est le harcèlement dont ont été victimes les enfants et les adolescents durant leur première année scolaire. Ils subissaient des brimades de leurs camarades de classe qui les intimidaient parce qu'ils venaient d'ailleurs, que c'était des déplacés. Notre deuxième plus grand souci, c'est l'insécurité. Le manque de travail pousse certains à se lancer dans des activités illégales, comme le trafic de drogue. Dieu merci, nous avons réussi à en sortir quelques-uns. Mais c'est quelque chose qui est très difficile à contrôler. C'est devenu une pratique courante parmi les déplacés qui n'ont pas suffisamment pour vivre.
Avant la bataille de Marawi, Aslani Ghassan travaillait comme sous-traitant pour le géant pétrolier saoudien Aramco. Il est rentré depuis pour rester auprès de sa famille. Pour ce quadragénaire, les jeunes sont les principales cibles des djihadistes.
Les gens subissent un lavage de cerveau. Il y a beaucoup de rumeurs. On raconte que les groupes armés philippins continuent de recruter des jeunes hommes et femmes en leur faisant croire qu'ils iront au paradis s'ils les rejoignent dans leur combat. Ils recrutent même des enfants entre 14 et 16 ans pour devenir membre de l'État islamique, il suffit de savoir tenir une arme et d'appuyer sur la gâchette. Mon voisin m'a raconté qu'ils étaient venus le chercher. Ils lui ont tendu une arme et lui ont dit « Si tu ne viens pas combattre avec nous, on te tue. À toi de choisir. Tu prends l'arme ou tu meurs. » Mon voisin a heureusement réussi à s'échapper. Aux Philippines, il y a beaucoup de pauvreté et un problème d'éducation. Les enfants deviennent des proies faciles pour les extrémistes qui les endoctrinent.
Mindanao is a large island in the southern Philippines with a high percentage of Muslims.
Mindanao, la deuxième plus grande île méridionale des Philippines, est en proie depuis des décennies à une rébellion séparatiste musulmane. En 50 ans, l'autonomie ou l'indépendance réclamée par les différents groupes armés a fait plus de 150 000 morts.
The Abu Sayyaf movement originated on Mindanao. Recently, they were blamed for the beheading and mutilation of 10 Filipino Marines captured in an ambush.
Il y a un an et demi, les députés philippins votaient la création maintes fois repoussée d'une nouvelle région musulmane semi-autonome. Son adoption massive par référendum en janvier dernier a fait renaître l'espoir d'une paix durable à Mindanao. Mais cette autonomie suffira-t-elle pour apaiser les tensions? La présence de djihadistes étrangers sur l'archipel et le recours de plus en plus fréquent à des kamikazes fait plutôt craindre le pire. Le spectre de Daesh plane désormais sur Mindanao, qui semble bien décidé à en faire son terrain d'expansion.
Marawi, une crise oubliée, un grand reportage de Yelena Tomic, réalisation Pierre Chaffange.
Mindanao is Muslim, is their home. Let them govern it, and they may rid the area of the worst terrorists.
Appelez-nous, exprimez-vous.